Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Le souverain pontife et l'Église catholique ont ouvert dimanche une nouvelle voie susceptible de secouer les eaux stagnantes de la politique et de la diplomatie qui ont échoué au Moyen-Orient. La plupart des commentateurs saluent l'invocation de prière pour la paix qui s'est tenue dans les jardins du Vatican. Nous reviendrons bien sûr sur cette initiative très réussie. Tout rénové dans le Christ, c'était la doctrine du pape Saint-Pie X, mort il y aura 100 ans dans quelques jours, sans être parvenu à conjurer la Grande Guerre. L'époque était difficile pour les rapports entre l'Église et la politique, nous verrons que ce berger de l'Église n'a pas fait que condamner le modernisme. Rapport toujours difficile entre les Églises et les autorités communistes en Chine, un administrateur apostolique nommé par Rome a disparu après avoir été appréhendé par des hommes non identifiés. Les adversaires d'un conflit interminable ont cédé de bon cœur devant le charisme personnel du pape François. La presse salue à la quasi-unanimité l'invocation de prière pour la paix qui s'est tenue dimanche soir dans les jardins du Vatican. Cette rencontre est un signe d'espoir, selon les commentateurs, qui y voient un premier pas qui ne manquera pas d'être suivi d'autres initiatives. Un événement historique qui permet l'irruption de Dieu dans l'histoire du péché et du pouvoir des armes. Bref, le pape François est déjà entré dans l'histoire avec un grand H. De son côté, le porte-parole du Saint-Siège, le père Federico Lombardi évoque les gestes, les poignées de main, les accolades sincères. L'initiative du pape François était, selon lui, un acte de courage face aux attitudes réalistes de découragement et de résignation provoquées par les échecs accumulés. Les chrétiens, dit-il, croient que rien n'est impossible à Dieu. Olivier Bonnel.
Le pape François a voulu donner un signal fort. Il a posé un geste d'ouverture et de rencontre sous le signe de la foi, tout en proposant une forme différente d'engagement pour la paix. Tel est le commentaire du directeur du bureau de presse du Saint-Siège. Certes, reconnaît le père Lombardi, la paix ne reviendra pas du jour au lendemain et personne ne s'attend à ce que le Moyen-Orient retrouve la stabilité dans les heures qui viennent. Mais pour les croyants, la prière a une puissance formidable qui peut aider les cœurs à se convertir. Pour le porte-parole du Saint-Siège, cette rencontre des deux présidents en présence du Saint-Père a été comme un moment de libération pour deux peuples qui veulent la paix mais qui ont toujours du mal à en trouver le chemin. Une rencontre qui s'est déroulée conformément aux vœux du pape, dans un climat pacifié. Cette invocation pour la paix a marqué les esprits et les commentaires de la presse ont été nombreux ce lundi pour saluer ce moment inédit. Si la prière ne peut remplacer la volonté politique, elle peut assurément inspirer les leaders, note ainsi le Times of Israel, qui se demande même si le pape peut réussir là où John Kerry a jusqu'ici échoué. Si la paix ne s'est pas rapprochée, peut-être que la guerre s'est éloignée, souligne encore le quotidien. Plus retenu, le Haaretz note que le pape a dit qu'il fallait plus de courage pour faire la paix que la guerre, sans toutefois donner des conseils sur comment trouver ce courage. Mais les images restent là, celles d'une rencontre fervente et émouvante, et cet olivier planté qui vaut tous les symboles. Selon de nombreux commentateurs, par cette initiative très réussie, le pape et l'Église catholique ont ouvert un nouveau chemin, susceptible de secouer les eaux stagnantes de la politique et de la diplomatie qui ont échoué.
Parmi les personnalités qui ont suivi avec beaucoup d'attention cette rencontre de prière inédite depuis la Terre Sainte, le père David Neuhaus, vicaire patriarcal pour la communauté catholique d'expression hébraïque. Il se réjouit qu'un tel événement ait pu avoir lieu et nous livre son sentiment.
La chose pour moi qui était le plus émouvante, c'était le fait que Dieu est là, son esprit est là, son esprit souffle sur nos pays, sur la situation, sur les hommes qui se sont rassemblés pour la prière. Et maintenant, je pense que beaucoup de croyants ont plus de confiance que Dieu peut agir. Là où les hommes ont échoué, Dieu vraiment peut agir.
De nombreux Israéliens et Palestiniens ont pu suivre cette rencontre inédite. Comment a-t-elle été perçue en Terre Sainte?
Pour dire la vérité, toute la cérémonie, même la planification de cette cérémonie a laissé beaucoup d'Israéliens et de Palestiniens dans la confusion. Qu'est-ce que fait le pape? Qu'est-ce qu'il propose? Et cela est béni, parce que quand les hommes sont absolument sûrs de ce qu'ils doivent faire et comment ils doivent agir, je pense que parfois l'action de Dieu est un peu bloquée, parce que nous sommes autosuffisants. Mais quand les hommes commencent à poser des questions, peut-être on peut avancer avec l'aide de Dieu.
Dans une région où politique et religion sont intimement liées, quelle peut être la portée d'une telle rencontre?
Je pense que maintenant, ce qu'il faut développer, c'est comment la religion peut agir. Parce que pour le moment, et cela est très malheureux, la religion est instrumentalisée par les politiciens, par les chefs politiques. C'est-à-dire, la religion dans notre contexte sert les intérêts politiques. Je pense que ce que le Saint-Père a fait pendant son pèlerinage en Terre Sainte et hier soir avec cet acte audace, c'était de montrer que la religion peut libérer le domaine politique au lieu d'être utilisée par le domaine politique. Et cela est un grand changement.
Les leaders religieux doivent jouer un rôle plus important dans le processus de paix et de façon indépendante.
Le pape nous montre un autre chemin. C'est le chemin bien connu dans les Saintes Écritures. C'est le chemin du prophète qui se met très explicitement aux marges, là où la vision est peut-être beaucoup plus claire, et c'est à lui d'appeler, de préparer le chemin du Seigneur. Je pense qu'ici, vraiment, les leaders religieux doivent un peu renoncer à cette importance politique pour prendre le rôle de religieux sérieux, c'est-à-dire de se mettre dans les marges et crier en haute voix au nom de Dieu et au nom du peuple souffrant.
Une rencontre de prière inédite, mais sur le terrain, la colonisation se poursuit, les tirs de roquettes également. Que dire à ceux qui évoquent beaucoup de bruit pour rien ?
Je ne pense pas que c'est pour rien. Je pense qu'ouvrir un espace pour Dieu est le contraire de rien. C'est l'unique chose qu'aujourd'hui a du sens. Là, le pape l'a dit très très bien, il a dit « Nous ne renonçons pas à notre responsabilité, c'est plutôt notre responsabilité suprême de faire place à Dieu. » Et je pense que là, ce n'est pas le bruit, hein, pour rien, c'est le bruit du Pentecôte. Et là, je crois que cet acte va avoir une influence, peut-être pas une influence immédiate dans le « aujourd'hui, maintenant », mais je pense que le pape, son rôle comme pasteur, comme chef spirituel, est d'ouvrir les horizons au-delà de où nous pouvons voir, parce que notre monde est totalement fermé par les murs que nous avons construits.
La prière peut réussir là où la politique et la diplomatie ont échoué?
C'est-à-dire, il y a deux choses qui sont claires. La politique, pour le moment, est en échec. J'espère beaucoup que cela ne continuera pas. Que la politique est très importante et la politique doit se remettre. La religion a un autre rôle à jouer. Hein, je ne pense pas que c'est sur le même plan. La religion est d'appeler les hommes et les femmes à se reconnaître en tant que frères créés par un même Dieu. Et au-delà des conflits, de ne jamais oublier l'humanité de celui qui semble pour le moment être ennemi. Là encore, le pape a évoqué une image qui est simple, mais très importante. Hein, celui en face de moi est toujours un frère, parce qu'il est créé dans l'image de Dieu.
Le pape François, avec cette rencontre, a innové. Il a en quelque sorte proposé une autre façon de percevoir cette question extrêmement délicate.
Je pense que là, il est vraiment en continuité avec ce que nous avons vu avec les trois autres papes qui sont venus dans notre région. L'enseignement magistral de Benoît XVI quand il est venu parmi nous, ses paroles menaient vers cet acte. Ah, et la danse de Jean-Paul II, de Saint Jean-Paul II quand il est venu chez nous, c'est-à-dire de construire les ponts, d'aller dans l'amour de chaque côté, de manifester notre angoisse et notre souci pour tous, cela maintenant a une forme incarnée dans cette invocation pour la paix qui s'est tenue hier au Vatican. Et je pense que tous ceux qui sont croyants, mais spécialement les chrétiens, veulent dire un grand merci au pape François, à tous ceux qui ont organisé cette rencontre hier, parce que je pense que vraiment ça nous met devant notre identité et notre vocation en tant qu'hommes et femmes de foi ici en Terre Sainte.
Le père David Neuhaus, vicaire patriarcal à Jérusalem, interrogé par Hélène Destombes. À l'occasion de sa prestation de serment dimanche soir, le nouveau président égyptien Abdel Fattah el-Sissi a rendu hommage au rôle joué par l'église copte dans le pays. Dans son discours à la nation, il a consacré un important passage aux chrétiens, déclarant qu'ils avaient apporté une contribution incontestable à la sauvegarde de l'unité nationale, faisant face à ceux qui fomentaient des conflits à l'intérieur du peuple égyptien. Le président a également déclaré que l'église copte et l'université sunnite d'Al-Azhar pouvaient aider à libérer le discours religieux des manipulations qu'il a subies au cours de ces dernières années. Le patriarche orthodoxe Tawadros II et l'imam d'Al-Azhar Ahmed Al-Tayeb avaient été invités à la cérémonie de prestation de serment. Ils étaient assis l'un à côté de l'autre à des places de choix. L'administrateur apostolique d'un diocèse chinois a été arrêté il y a 2 semaines et se trouve dans un lieu inconnu. Selon l'agence de presse UK News, le père John Peng, administrateur apostolique de Yujiang, a été appréhendé le 30 mai et a disparu depuis. Le père Peng a été nommé par le Saint-Siège en 2012 pour succéder à Mgr Zheng Jinmu, un évêque clandestin très âgé, ayant fait des années de prison. Antonino Gallofaro.
Des prêtres qui se trouvaient sur place affirment avoir reconnu des fonctionnaires du bureau local des affaires religieuses parmi les personnes venues arrêter le père Peng. Mais ces derniers ont déclaré que tout avait été décidé par le gouvernement provincial. Cette arrestation intervient dans un contexte particulièrement tendu entre les pouvoirs locaux et les chrétiens de Chine. Au mois d'avril, dans l'est du pays, une église catholique a été détruite au bulldozer, soulevant une vague d'indignation dans le monde. Dans le cadre d'une campagne lancée par les autorités chinoises, ce sont des dizaines d'édifices religieux qui ont été détruits sous prétexte qu'ils ont été construits de manière illégale ou au nom d'un prétendu renouvellement urbain. Des croix ont été abattues parce que trop visibles et éclatantes. Certains pays, dont le Canada, se sont dit préoccupés par la situation de la liberté de religion en Chine, pourtant énoncée dans la Constitution. L'ambassadeur canadien Andrew Bennett s'est insurgé contre l'application sélective de règlements d'urbanisme à des bâtiments religieux, alors que d'autres bâtiments non conformes du voisinage sont ignorés. En dépit de ce climat délétère, un journal hongkongais croit savoir que des préparatifs sont en cours pour renouer le dialogue entre la Chine et le Vatican, mis à mal par les ordinations épiscopales sans l'aval de Rome et par les nombreuses arrestations dans les rangs du clergé fidèle au pape.
Le conseil d'administration de la Fondation Populorum Progressio pour l'Amérique latine tiendra sa réunion annuelle cette semaine au Vatican. Instituée en 1992 par Jean-Paul II, cette fondation relève du conseil pontifical Corunum. Les participants devront adopter des projets en faveur des communautés indiennes, métisses, afro-américaines et des populations rurales d'Amérique latine et des Caraïbes. Ils espèrent recevoir directement du Saint-Père des indications et des orientations sur les perspectives de la fondation. Les premiers bénéficiaires, en particulier les communautés indigènes et paysannes, constituent des périphéries humaines sur un continent qui, malgré un développement économique important, est caractérisé par de grandes inégalités sociales. Jusqu'ici, la Fondation a pu réaliser quelques 4000 projets et a débloqué plus de 35 millions de dollars. Agriculture, élevage, artisanat, micro-entreprises, infrastructures pour l'acheminement de l'eau potable, formation et équipement scolaire, santé, bâtiments sont ses domaines d'action prioritaires. Le principal bailleur de fonds de Populorum Progressio est la Conférence des évêques catholiques italien. L'année dernière, l'Assemblée s'était tenue à Arequipa, au Pérou. 222 projets avaient été présentés par 18 pays, en particulier la Colombie, le Brésil, le Pérou et l'Équateur. Saint Pie X, un pape réformateur face aux défis du nouveau siècle. C'est le thème d'une journée d'études organisée le 12 juin prochain au Vatican par le Comité pontifical des sciences historiques. Pie X est mort dans la nuit du 20 au 21 août 1914, 2 mois après l'attentat à Sarajevo contre l'archiduc François Ferdinand qui allait entraîner l'éclatement de la Première Guerre mondiale. Le 2 août 1914, dans son exhortation Dum Europa, le pape avait lancé un vibrant appel, mettant en garde contre les conséquences dramatiques du conflit. Cette journée d'études a été présentée lundi matin en salle de presse du Saint-Siège. Il s'agit, a souligné le père Bernard Ardura, président du Comité pontifical des sciences historiques, de mettre en lumière ce pape méconnu. Un pape considéré comme un conservateur pour avoir condamné le modernisme, mais qui a, avant tout, réformé et renouvelé l'Église.
Pie X fut un homme de réforme. Un homme qui avait non seulement des idées, mais qui avait la volonté politique de les mener à bien. Ainsi, il a réformé le droit canonique Et nous avons eu donc ce premier code du droit canonique de toute l'histoire de l'Église, promulgué en 1917. Ensuite, nous avons la réforme de la curie romaine, parce que la curie romaine n'avait pas changé pratiquement, sauf quelques détails, depuis 1588, sous Sixte Quint. Ensuite, il a réformé sur le plan liturgique le cycle des dimanches, la musique liturgique, le chant liturgique. Sur le plan pastoral, nous avons l'encouragement à l'action catholique, la formation catéchistique des enfants, des jeunes et des adultes, la formation des prêtres, la réforme des séminaires, enfin, tout un ensemble de mesures. Et alors, celle qui est encore tout à fait actuelle, c'est ce qu'on appelait la communion précoce des enfants. Être admis à la première communion à partir de l'âge de 7 ans. Le pape, sur le plan de la théologie, était un pape certainement conservateur, mais il était avant tout un pasteur d'âme. Et c'est pour cette raison qu'il a été profondément réformateur. On aurait pu l'appeler alors un évêque des périphéries, pour reprendre une expression du pape François.
Un pape des périphéries, un pape simple, peu enclin au protocole. On peut y voir des similitudes avec le pape François ?
Oh, il y a certainement des similitudes. La première, c'est que lorsqu'il a dû prendre l'appartement du pape, il a refusé. Et il est passé donc de la deuxième loggia, du deuxième étage du palais apostolique, au troisième, où il a fait aménager l'appartement dans lequel le pape François n'a pas voulu loger. Il y a des similitudes, la volonté de réformer la curie, mais pas réformer pour réformer, réformer pour que la curie corresponde davantage à sa mission, qui est une mission de service. Service de toute l'Église.
Pie X était profondément marqué par les prémices de la Première Guerre mondiale. Il a lancé un appel vibrant dans son exhortation Dum Europa. C'est quelque chose qui marque aussi son pontificat.
Certainement que l'éclatement de la Première Guerre mondiale a hâté la mort du pape. Ce choc a été considérable car, à la différence des chefs d'État et de nombreuses populations où les sentiments nationalistes étaient exacerbés, le pape a eu le pressentiment que la guerre qui commençait serait une guerre terrible. Tandis que la plupart des pays qui sont partis en guerre avec la certitude de la victoire, avec la certitude que ce serait une guerre de mouvement, avec la certitude que ce serait une guerre brève. Et ils se sont trompés sur tous les plans.
Qu'est-ce qui véritablement a marqué le pontificat de Pie X ?
C'est certainement un grand mouvement de renouveau de l'Église. Instaurer toute chose dans le Christ, contribuer au renouveau de la vie chrétienne dans les personnes et dans les communautés. Et n'oublions pas que c'est à cette époque-là que nous avons un grand renouveau aussi du recrutement sacerdotal, de la formation des prêtres, où nous avons à l'époque en France des diocèses avec des vingtaines, des trentaines d'ordinations par an. C'est un pontificat qui a été marqué par des fruits spirituels et de vie ecclésiale absolument extraordinaires.
Le père Bernard Ardura, président du comité pontifical des sciences historiques, interrogé par Hélène Destombes. En raison d'un peu de fatigue, le pape François a reporté ce lundi quelques-uns des rendez-vous notés à son agenda, dont l'audience prévue des membres du Conseil supérieur de la magistrature italienne. La journée de dimanche, qui a culminé avec l'invocation de prière dans les jardins du Vatican, a été très fatigante pour lui. Après avoir célébré, comme il le fait d'habitude, la messe du matin, le Saint-Père a accordé quelques audiences avant de décider d'en reporter d'autres. Depuis qu'il a été élu, le pape François François n'a jamais pris de vraies vacances. L'agence France Presse rappelle qu'en mai dernier, devant des prêtres et des séminaristes en formation, il avait confié qu'il n'était pas un modèle à suivre quant à l'organisation et la charge de travail et que se fatiguer inconsidérément pouvait finir par se payer cher. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Je vous invite à nous retrouver également sur Internet, radiovaticana.va, ainsi que sur Facebook, Radio Vatican, en français.